à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'épître de Paul à Tite. On va continuer l'étude ensemble du deuxième chapitre. Donc l'épître de Paul à Tite, chapitre 2. Et puis on va s'intéresser au verset 4, depuis le verset 4 jusqu'au verset 8. Et je vais lire ce texte. Qu'elles conduisent ainsi les jeunes femmes à la sagesse, en leur apprenant à aimer leur mari et leurs enfants, à mener une vie équilibrée et pure, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari. Ainsi, la parole de Dieu ne sera pas discréditée. Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. Sois toi-même en tout un modèle d'œuvre bonne. Que ton enseignement soit fidèle et qu'il inspire le respect. Que ta parole soit juste et inattaquable, afin que même nos adversaires soient couverts de honte, ne trouvant aucun mal à dire de nous. Et on arrête là notre lecture. Dans ce chapitre, l'apôtre Paul encourage Tite à donner des conseils pratiques à différentes catégories de personnes dans l'Église. Et là, en l'occurrence, il s'adresse, il parle des jeunes femmes, des jeunes gens. Et ce qu'on vient de lire, en tout cas, ça ne semble pas tellement quelque chose dans l'air du temps, à la mode. Et ça peut paraître un petit peu surprenant à notre époque. Mais c'est quelque chose de tout à fait valable pour notre société et pour notre vie aujourd'hui. Et on va voir pourquoi. Ce qu'on va voir à travers ce texte, c'est que Paul encourage Tite à ce qu'il encourage à son tour les chrétiens de Crète à avoir une vie qui honore la parole de Dieu. Et en particulier pour les jeunes femmes, qu'elles soient des femmes qui honorent Dieu, qui vivent selon Dieu, que les jeunes gens soient maîtres d'eux-mêmes, que lui-même soit un modèle, et tout cela pour que l'évangile soit rendu visible dans nos vies, que la parole de Dieu ne soit pas discréditée, que les adversaires de l'évangile ne trouve rien de mal à dire, que l'enseignement, en fait, de Dieu soit rendu quelque chose auquel on rend honneur et qui soit rendu même attrayant, nous dit un verset un peu plus loin. Alors, ce premier passage sur les femmes. Donc, que les jeunes femmes soient conduites à la sagesse en leur apprenant à aimer leur mari, leurs enfants, à mener une vie équilibrée, à être pures, à être des maîtresses de maison bonnes et actives, à être soumises à leur mari. À notre époque, ce que demande Paul, ça nous paraît suranné, dépassé, voire paternaliste ou même sexiste. On parle tout le temps de parité, d'égalité. Et puis on se dit, aimer sa famille, mener une vie équilibrée, bien gérer sa maison, être soumise à son mari, est-ce que vraiment c'est ça la sagesse ? Ça semble pas tellement en phase avec notre époque. Et alors on se dit, mais alors dans l'esprit de Paul, finalement, les femmes, elles seraient coincées à la maison, elles seraient condamnées aux tâches domestiques. Enfin, c'est pas jouable, quoi. Alors, déjà, j'aimerais juste faire une remarque. Quand on lit le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'on a des contre-exemples par rapport au fait que les femmes devraient être restées à la maison, cantonnées aux tâches domestiques. Par exemple, dans le livre des Actes, Paul y rencontre Priscille et Aquilas, et c'est un couple. Et les deux, ils ont comme métier fabricants de tentes. Et ce couple, donc d'artisans finalement, il va intégrer l'équipe de Paul. Et Priscille et Aquilas, tous les deux, on en entend parler, au chapitre 18 du livre des Actes. Et on voit bien que Priscille, elle n'est pas cantonnée à la maison, puisqu'en fait, tous les deux, ils témoignent. Ils sont des enseignants de la Bonne Nouvelle. Et puis, ils rencontrent Apollos et ils lui parlent de l'Évangile. Donc finalement, tous les deux, en couple, ils travaillent ensemble au service du Seigneur. Et Priscille et Aquilas, tous les deux, même, ils ont un métier qu'ils exercent ensemble. Donc, L'idée de dire que les femmes seraient coincées à la maison, condamnées aux tâches domestiques, ça paraît bizarre. Que Paul, d'un côté, il dise qu'il faut faire ça, puis en même temps, dans son équipe, il embauche un couple. Et par exemple, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 16, un peu avant, on voit que quand Paul arrive en Europe, à Philippe, une des premières personnes qu'il rencontre et qui se convertit, c'est une femme qui s'appelle Lydie, et on connaît son métier. Elle est marchande d'étoffes de pourpre. Donc, cette femme-là, ben, en l'occurrence, elle avait un métier, elle ne restait pas coincée à la maison, condamnée aux tâches domestiques. Et puis, on voit même, dans l'Ancien Testament, un portrait de la femme active, dans Proverbe 31, et puis c'est une femme qui, finalement, qui est quasiment chef d'entreprise, quoi. Elle achète un terrain, elle embauche des gens, elle fait travailler des ouvriers, certes, elle s'occupe aussi de sa maison, mais on voit bien que, en fait, si on voulait dire que cette injonction, c'est pour dire « Les femmes, vous restez à la maison, vous faites votre ménage, vous faites la cuisine, et puis les hommes sont en dehors et en autre métier », en fait, ça colle pas. Alors, est-ce que ce que nous dit Paul, ce serait réservé à une époque ? Alors oui, effectivement, à l'époque de l'Empire romain, la plupart des femmes, elles étaient à la maison. Mais en fait, ce que Paul est en train de dire, ça a bien une valeur aujourd'hui. Il n'est pas en train de dire que la division des tâches traditionnelles dans un couple, c'est absolument à ça qu'il faut revenir. Mais en fait, Dieu, il a créé le couple et la famille en prévoyant un ordre, des rôles différents et des rôles complémentaires pour l'homme et la femme. Il y a d'autres passages qui parlent de ça, par exemple dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et en fait, à travers le couple et la famille, Dieu a envie que ce qu'on vive, ça soit un témoignage qui révèle sa nature et son amour pour son peuple. Et la relation qu'il y a entre l'homme et la femme dans un couple, c'est l'image de la relation que Jésus veut avoir avec son Église. Et donc, ça va au-delà de nos modes, au-delà de nos idées du moment, au-delà de tout ce qu'on peut entendre dans les médias, et au-delà de simplement la division traditionnelle des tâches au sein du foyer. Et il y a un enjeu qui est important à cela, c'est que la parole de Dieu ne soit pas discréditée. Si on regarde un petit peu en détail qu'est-ce que Paul conseille pour les jeunes femmes, il dit des choses intéressantes, je trouve. Pour commencer, au verset 4, qu'elles apprennent à aimer leur mari et leurs enfants. On aurait tendance à se dire, l'amour, c'est un sentiment qui nous tombe dessus, et puis ça arrive, et puis pouf, on aime. Et ce que Paul souligne, c'est qu'en fait, l'amour, ça s'apprend. Alors oui, peut-être à l'époque où les maris et les femmes ne se choisissaient pas ou rarement, puisque c'est souvent les parents qui choisissaient, évidemment, on commençait à vivre ensemble sans vraiment se connaître, et puis... sans avoir commencé à s'aimer. Aujourd'hui, où on prône le fait de se marier quand on s'aime, on voit bien que ça ne fait pas durer les mariages plus longtemps. Et puis, on se dit, mais aimer ses enfants, c'est normal, on les a, on les aime, quoi. Pour les mères de famille qui ont des jeunes enfants, par exemple, c'est pas toujours facile de continuer à éprouver, à témoigner de l'amour à ses enfants, lorsqu'on est par exemple réveillé par son bébé à 3h du matin parce qu'il pleure et qu'il faut lui donner la tétée. Lorsqu'il se trouve que par exemple on a des enfants qui sont grognons, désobéissants. Lorsque ça fait 50 fois qu'on leur demande de mettre dans le panier de linge sale les sous-vêtements qui jonchent la salle de bain après leur douche, toute ressemblance avec une situation ayant existé est totalement réel. Lorsqu'on a passé son samedi à les conduire à leurs différentes activités périscolaires, lorsqu'ils sont encore plongés dans leur téléphone, oubliant jusqu'à l'existence même du reste de la famille, c'est pas toujours facile d'aimer ses enfants. Son mari non plus, c'est pas toujours facile de l'aimer. J'en sais quelque chose, des fois je suis pas aimable. Mais en revenant sur les enfants, qu'est-ce qui est le plus important pour mes enfants ? Est-ce qu'il faut qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils aient des bonnes études, un bon travail ? Oui, ça paraît être des choses bien. Mais finalement, le plus important, ce qu'on veut pour eux, c'est qu'ils apprennent à connaître Dieu, qu'ils lui confient leur vie et que Jésus soit leur sauveur. Et finalement, aimer ses enfants, ça veut dire avoir ça, envie de ça pour eux. Et je me dis, mais est-ce que du coup, ça ne vaut pas la peine d'organiser sa vie de famille pour que ça devienne une vraie priorité ? Ça, c'est aussi un vrai témoignage d'amour. Et donc, ce rôle-là, Paul le donne en particulier aux mamans, aux maîtresses de maison, aux jeunes femmes. Et ça, c'est un rôle qui est fondamental. Alors, c'est sûr, ça ne paraît pas très glamour de s'occuper de son foyer. On se dit, ce que me disait Christelle, oui, les mères au foyer, ça fait un peu... On se dit, de toute façon, elle glande rien de la journée, elle reste devant sa télé à regarder des jeux télévisés, et puis elle reste en robe de chambre toute la journée, elle n'a rien à faire. C'est un petit peu dévalorisé, quoi. Quand Paul parle des femmes, elle dit il faut qu'elles soient des maîtresses de maison bonnes et actives. Il y a cette idée de prendre soin de la maison. Et effectivement, quelqu'un reste à la maison puis qu'il devient oisif, on peut lire par exemple dans l'épître de Paul à Timothée au chapitre 5, verset 13, que l'oisiveté, ça conduit à quoi ? Ça conduit à ne pas savoir qu'à faire. Donc on passe son temps à discuter, à faire des commérages et à médire. Donc effectivement, ce n'est pas ce que Paul vise. Mais en fait, l'idée de prendre soin de son foyer, d'avoir à cœur ses enfants et avoir à cœur ce qu'ils vont devenir, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et c'est une tâche à laquelle il faut vraiment prendre le temps. Enfin, pour laquelle il faut vraiment prendre du temps et pour laquelle ça vaut le coup d'organiser sa famille. L'enfance, ça passe vite, hein. Je réalise que mon fils aîné, il a 15 ans et maintenant il est au lycée. Et je me souviens très bien de quand j'étais au lycée à Montgeron aussi. J'ai l'impression que c'était hier, quoi. Et donc, entre-temps, il s'en est passé des choses, quoi. Et ces moments qu'on peut passer ensemble en famille, ils passent très vite, finalement. Et pour celles qui donnent encore la tétée pendant la nuit, ça passe aussi très vite, finalement. Quand on est dedans, on a l'impression que ça s'arrêtera jamais, mais c'est une période qui est courte, quoi. Et c'est sûr que quand on démarre dans la vie, et dans la vie de famille, on n'a pas... On n'a pas grand-chose comme savoir, hein, comme savoir-faire. On passe beaucoup de temps à l'école, à se former, à accumuler des connaissances pour avoir un métier, mais en fait, il n'y a pas d'école de la vie de famille. Et des fois, on est démunis face à ça. C'est pour ça que Paul, il insiste sur le fait que les femmes qui ont plus d'expérience prennent du temps pour partager aux plus jeunes leur expérience, ce qu'elles ont acquise à travers leur propre vie. Et les conseils d'une personne qui a plus d'expérience, c'est des conseils qui sont précieux. Et Paul a envie qu'au sein de l'Église, il y ait cette relation de confiance entre les plus âgés et les plus jeunes, pour que, quand on est confronté à des fois des situations pratiques qu'on n'a encore jamais vécues, quelqu'un d'expérience peut nous dire, d'accord, là, tu es fatigué parce que tu dois donner la tétée à 2h du matin, puis à 4h30, puis à 7h, ça ne va pas durer. Donc, c'est quelque chose qui va durer une certaine période, et puis après, ça va changer. Ça permet de nous encourager. Donc voilà ce que Paul donne comme conseil aux jeunes femmes. Ensuite, il passe aux jeunes gens, et là, c'est beaucoup plus court. Verset 6, « Recommande aussi aux jeunes gens de mener une vie équilibrée. » Alors, ce conseil, il est répété, en particulier à destination des jeunes gens, mais en fait, on voit qu'il est aussi valable pour les autres catégories mentionnées dans ce passage. Alors, pourquoi il le répète pour les jeunes gens ? C'est peut-être qu'en étant jeune, on est peut-être plus tenté d'avoir des jugements un peu extrêmes, des attitudes un peu excessives, de tout voir en noir et blanc et d'oublier la nuance. Alors oui, il faut être radical dans notre façon de vivre, et c'est important de savoir où on veut aller, et en particulier dans notre marche avec Dieu. Mais on peut peut-être plus facilement se laisser emporter par la fougue de nos envies, de nos idées, qui peuvent parfois, quand on n'a pas d'expérience, se révéler un peu déraisonnables ou extravagantes. Mais Paul, du coup, il recommande d'être équilibré, d'être sobre, d'être raisonnable, d'être pondéré, modéré, mesuré. Bon, ça aussi, c'est une vertu qui, finalement, n'est pas non plus tellement dans l'air du temps. Qu'est-ce que ça veut dire, de mener une vie équilibrée ? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait être fade, être mou, de passer inaperçu ? Non, ce que veut dire Paul, c'est qu'il faut être maître de soi. Et non seulement il le dit aux jeunes gens, mais il le dit également aux vieillards, au tout début du chapitre 2. Il le dit aux jeunes femmes. Et il le dit pas directement, mais aussi aux femmes plus âgées. Pourquoi il insiste particulièrement sur la maîtrise de soi ? Alors j'aimerais vous raconter une petite histoire. On n'a pas... Notre sœur de La Réunion n'est pas là ce matin, je ne la vois pas. Ah si, si, voilà. Donc, j'ai une petite histoire qui est arrivée à La Réunion. En fait, l'image que vous voyez là, elle est tirée d'une photo qui a été prise à La Réunion. C'est un sentier qui s'appelle le sentier Augustave, qui permet d'aller dans le cirque de Mafate. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, à La Réunion, il y a 3 grands cirques. Et le cirque de Mafate, on n'y va que à pied. On y accède par plusieurs sentiers. Et un de ces sentiers, c'est le sentier Augustave. Apparemment, c'est un très beau sentier. Ça me dirait bien d'un jour y aller. C'est un très beau sentier. Seulement, au début de 2019, il y a eu 2 personnes qui ont fait une chute mortelle de 60 mètres sur ce sentier. Alors le sentier, il n'est pas particulièrement dangereux, mais en fait, à la saison des pluies, il devient très glissant et il y a des passages qui sont vertigineux. Alors on voit pas très bien là, mais en fait, c'est vertigineux. Vous chercherez d'autres photos sur Internet, vous verrez. Et en fait, il y a un secouriste du PGHM, donc le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, qui précise que c'est un endroit exigeant et s'écarter de la rambarde ou une faute technique peuvent avoir de lourdes conséquences. Et donc le secouriste ajoute... Sur ce tronçon du sentier Augustave, au niveau des escaliers, la végétation cache le vide. Il peut y avoir un excès de confiance de la part du randonneur à cause de ce vide qui n'est pas perceptible. Et donc, après expertise et suite à ces chutes, l'ONF a décidé de renforcer le dispositif de sécurisation qui existait déjà, avec notamment la construction côté aval d'un garde-corps sur 35 mètres de long sous forme de 3 câbles fixés sur des barres métalliques. Pourquoi je parle de ces câbles et de ce garde-corps là qui a été fixé sur ce chantier ? C'est parce que finalement cette barrière, c'est ce qui va empêcher les randonneurs de tomber dans le vide. Et finalement la maîtrise de soi, c'est aussi une barrière dans nos vies qui peut nous empêcher de tomber dans le péché. Il y a le livre des Proverbes au chapitre 25, verset 28 qui dit « Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de remparts, plus de barrières, plus de murs. » Et en fait, la maîtrise de soi, c'est bien la limite, la barrière, le garde-corps qui va m'empêcher de chuter. La maîtrise de soi, ça passe en particulier par la maîtrise de mon comportement. Comment est-ce que je maîtrise mon temps ? Si je passe ma nuit sur YouTube... ou sur ma console de jeu, forcément, mon temps, je ne l'ai pas maîtrisé. Puis après, le lendemain, j'ai des valises sous les yeux et c'est difficile d'être attentif en cours. Dans la gestion de mon argent aussi, si je craque pour les dernières baskets ou si je fais des folies, parce qu'en ce moment, c'est les soldes. En ce moment, c'est les soldes. C'est bientôt fini, attention. Le jour où la facture arrive, je me rends compte que je n'ai rien maîtrisé. C'est aussi la maîtrise de mes paroles. En effet, si je suis sur les nerfs, je risque d'envoyer balader quelqu'un. On a entendu un petit témoignage ce matin. Et effectivement, on a bonne raison parfois d'être sur les nerfs. Mais si j'envoie balader quelqu'un, il ne va pas forcément réagir comme le monsieur avec Stony. Ça peut parfois dégénérer. Et finalement, au-delà de mon comportement, de mes paroles, c'est à l'intérieur de moi qu'il faut que j'apprenne à me maîtriser. Maîtriser mes pensées, maîtriser mes sentiments, des choses qu'on ne voit pas forcément, mais qui finalement sont la racine du péché. Le péché, il commence dans les pensées. Si à ce moment-là, à cet endroit-là, j'ai une barrière, ben, je ne vais pas chuter et je vais rester sur le bon chemin. Puisque le péché commence dans les pensées, alors la maîtrise de soi, elle commence dans les pensées. L'apôtre Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10, il dit la chose suivante. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels. Mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse prétentieusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir au Christ. Ce que dit Paul, c'est que lui, il a choisi que chacune de ses pensées, elle soit canalisée, rendue prisonnière, pour l'amener à obéir au Christ. Il est bien conscient que nos pensées, elles partent dans tous les sens, et que ça va très très vite. Hein. On a des milliers de pensées dans la journée qui traversent notre esprit, mais dans toutes ces pensées qui traversent notre esprit, lesquelles on maîtrise vraiment, et sur lesquelles on a décidé de les faire prisonnières pour l'amener à obéir au Christ. Alors, il y a des gens qui se disent, pour se maîtriser, il faut des techniques de méditation, de contrôle, qui demandent un long apprentissage, des années de pratique spirituelle. Mais en fait, ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas mon esprit humain que je vais réussir à contrôler par moi-même avec mes propres capacités. Comme nous l'a dit Katiana, la maîtrise de soi, ça fait partie de quoi ? Du fruit de l'esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu en moi qui produit ça. C'est un effet de la grâce de Dieu. C'est un cadeau que Dieu me fait. D'ailleurs, un peu plus loin dans l'épître à Tite, au verset 11, enfin à partir du verset 11, voilà ce que l'apôtre Paul dit. « En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle nous éduque et nous amène à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener, dans le temps présent, une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu, en attendant que se réalise notre bienheureuse espérance, la révélation de la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. » Ce qu'on est en train de dire, c'est que la maîtrise de soi, c'est une barrière contre le péché, et elle se cultive en demandant à Dieu sa grâce. Et c'est son esprit en nous, si on le laisse nous transformer, qui va nous permettre d'acquérir cette maîtrise de soi. C'est la grâce de Dieu qui nous éduque pour nous détourner de tout mépris de lui, rejeter les passions des gens de ce monde pour qu'on vive une vie équilibrée. La source de tout ça, c'est la grâce de Dieu. C'est un cadeau que Dieu nous fait. Et aujourd'hui, c'est un jour de grâce, comme nous l'a rappelé Samuel. Ensuite, l'apôtre Paul demande à Timothée une chose, à Tite. Il lui dit, toi-même, il faut que tu sois un modèle dans ta façon de vivre. Que Tite soit un modèle pour les chrétiens de Crète. Ce n'est pas le seul texte où quelqu'un est encouragé à être un modèle d'œuvre bonne pour ses frères et sœurs. Paul le demande effectivement aussi à Timothée, pour les membres de l'église d'Éphèse, dans 1 Timothée chapitre 4. Paul lui-même se dit qu'il est un modèle pour les chrétiens de Thessalonique. Et Pierre aussi, dans son épître, il demande aux responsables d'église d'être des modèles. Dans l'église, on a une responsabilité les uns envers les autres de vivre en modèle, et en particulier ceux qui sont plus mûrs dans la foi. Quelles sont les responsabilités de Tite en tant que modèle qu'on voit dans ce texte-là, dans les versets 7 et 8, dans ses œuvres, c'est-à-dire dans ce qu'il fait, que ce qu'il fait, ce qu'il fasse, soit des choses bonnes, dans son enseignement, que ça soit un enseignement fidèle, pur, sincère, authentique dans ses mobiles, pas cherchant à gagner du profit aux dépens de ceux qui l'écoutent, et inspirant le respect, c'est-à-dire digne et sérieux dans la façon dont il traite les choses. Que Tite soit aussi un modèle dans toutes ses paroles, qu'elle soit juste, qu'elle soit saine et qu'elle soit inattaquable. D'autres traduisent indiscutable, irréprochable, qu'on ne peut pas condamner. Ça me fait penser, à titre d'exemple, à la façon dont Jésus a réagi quand on a cherché à lui tendre des pièges. Je suis en train de lire l'évangile de Matthieu, et dans le Matthieu chapitre 22, il y a différents pièges que différentes personnes essayent de tendre à Jésus. Et il y a en particulier ce texte où des pharisiens, accompagnés de quelques gens du parti d'Hérode, donc plutôt des religieux et puis des collabos, là, et ses émissaires lui dirent « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. » Là, il caresse Jésus dans le sens du poil. « Tu ne te laisses influencer par personne, car tu ne regardes pas à la position sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ?» Alors là, c'est embêtant parce que s'il disait « Ben non, il ne faut pas payer d'impôts à César », du coup, vis-à-vis des collaborateurs de l'Empire romain, il disait « Oui, il incite à la révolution, il ne respecte pas l'autorité. » Et puis s'il disait l'inverse, les juifs religieux pouvaient dire « Vous rendez compte, il dit qu'il faut payer l'impôt à César, alors qu'en fait, on devrait payer l'impôt au temple. » Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ?» Et puis il répond par cette phrase qui est devenue proverbiale, qu'on utilise même dans le langage courant en France. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Alors il leur demanda « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ?» Alors ils répondent « C'était la tête de César qu'il y avait sur les pièces. » Et Jésus leur dit alors « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » En entendant cette réponse, ils en restèrent tout déconcertés. Ils le laissèrent donc et se retirèrent. Je trouve que c'est un bon modèle d'un enseignement qui est à la fois juste et en même temps inattaquable. Alors, on peut compter sur le secours du Saint-Esprit, mais c'est aussi dans notre façon d'être et de faire et de parler avec les gens autour de nous. Je peux dire des choses justes d'une façon qui va blesser ou provoquer, ou alors je peux dire des choses justes en les disant d'une façon irréprochable, inattaquable. Et c'est aussi de ma responsabilité. Dieu ne nous demande pas d'être des tribuns qui vont au combat forcément contre les gens en face de nous, mais il nous demande de présenter la vérité d'une façon juste et d'une façon inattaquable. Paul demande à Tite et à nous par extension, d'être droit dans nos actes et dans nos paroles afin d'être digne de confiance. Parce que finalement, c'est quoi le but ? C'est bien ça, hein ? Que ça soit pour le comportement des jeunes femmes, des jeunes gens, ou dans le fait d'être un modèle, c'est que l'évangile ne soit pas discrédité. Que les adversaires de l'évangile n'aient rien à dire, qu'ils soient obligés d'être devant le fait accompli. Il y a un fait qui est vraiment dommage, et on s'en rend compte, on discutait de ça avec Christelle, c'est pire que dommage. En fait, il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre qui fuient les églises parce qu'ils ont eu des exemples déplorables de personnes qui se disaient chrétiennes, mais finalement dont la vie n'était pas du tout cohérente avec leurs paroles. D'ailleurs, Jésus, il reproche ça aux pharisiens, aux spécialistes de la loi qui étaient censés être les maîtres de la religion, toujours dans l'évangile de Matthieu, je suis dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, il dit la chose suivante, « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la loi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement, mais gardez-vous de prendre modèle sur leur acte, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. » Je pense qu'il n'y a rien de pire que de parler d'une manière, de dire « Oui, moi je suis un enfant de Dieu, je suis chrétien », et puis en fait agir d'une façon complètement inverse. Donc ce que Paul dit à Tite, et ce qui est vrai pour nous aujourd'hui, il ne faut pas qu'on soit une occasion de chute ou un contre-témoignage autour de nous. Au contraire, on doit être des modèles dans la façon dont on vit, dont on agit, dont on parle, dont on enseigne. Dans ce passage, on voit toute une chaîne de transmission. Je trouve une petite chaîne de transmission. En fait, Paul, il enseigne à Tite, pour que Tite enseigne aux femmes âgées, et ces femmes âgées vont enseigner les jeunes femmes. Et puis Tite va, lui, directement enseigner les jeunes gens. Je pense que c'est un bon principe aussi, ça. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Mais aujourd'hui, on vit dans une société où on n'a pas de repères, on n'a pas de bons modèles, et beaucoup de gens ne savent pas trop où ils vont. En fait, cette chaîne de transmission, elle a été quelque part rompue. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais bon, moi, je m'intéresse à la cuisine. Et il y a plein de gens qui recherchent des vieilles recettes de cuisine authentiques. Et puis finalement, parce qu'ils ne l'ont pas reçue de leurs parents. Alors, des recettes de cuisine, bon, on se dit, bon, c'est pas dramatique, hein. Mais c'est quelque part un symptôme dans notre société où on a voulu tout réinventer. Et bien finalement, on a perdu quelque chose. Et dans l'Église, il faut qu'on vive d'une façon différente. Peut-être que dans notre société, on a tendance à un peu mépriser les personnes plus âgées. On se dit, elle n'a rien à m'apprendre, de toute façon, je peux me débrouiller tout seul, ils sont plus bons à rien. Alors qu'en fait, Paul nous encourage à avoir vraiment du respect pour les plus aînés. Et que les aînés aussi aient du souci des plus jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent de ce qu'on vit en dehors de l'Église, dans la société dans laquelle on est. Où finalement, on est devenu très individualiste. Je me débrouille tout seul, je cherche sur Google, et puis je vais bien arriver à résoudre mes problèmes. Alors que non, si on développe des vraies relations de confiance entre plus jeunes et plus âgés, si en étant quelqu'un de plus mûr, on cherche à vivre en modèle, à être un modèle, c'est de cette façon-là aussi que l'Évangile va être rendu visible. Pour conclure, j'aimerais juste encore lire un passage. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, j'étais trop loin. Philippiens au chapitre 4, c'est un passage qui est aussi très connu. Je vais lire à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Après, c'est ce qu'il y a au milieu qui m'intéresse le plus. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre corps et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Enfin, frères, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange. En fait, ce que Paul demande aux Philippiens, c'est de se faire connaître par leur amabilité ou leur douceur, dans certaines traductions, envers tous les hommes. C'est ça qui doit être visible. Et dans nos relations, dans l'Église, au sein de l'Église, on est appelé à avoir des relations vraies, proches, empreintes de douceur, de maîtrise de soi. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment révolutionnaire à notre époque. Et je suis persuadé qu'en ayant des relations comme ça, on témoigne de quelque chose de complètement différent de ce que le monde témoigne autour de nous. Un monde qui nous dit il faut réussir par toi-même, tu dois trouver les ressources tout seul. Finalement, un monde qui est dur. Et Voilà, je voulais vous encourager à ce que, soyez des femmes selon Dieu, soyez maîtres de vous-même, soyez des modèles, pour que l'évangile soit visible par nos vies, que la parole de Dieu ne soit pas discréditée, que nos adversaires ne trouvent rien de mal à dire, même s'ils cherchent la faille, et que l'enseignement de notre Sauveur soit rendu comme quelque chose d'attrayant, qui fait envie, quoi. On a souvent eu une image mauvaise de l'Église et des chrétiens parce que les chrétiens ne vivaient pas selon ce que Dieu voulait. Alors, j'aimerais nous encourager ce matin. Et c'est accessible, c'est possible, parce que c'est un cadeau que Dieu nous fait. Aujourd'hui, c'est un jour de grâce. Par son Saint-Esprit, eh bien, on peut développer ces qualités-là. Et ça peut faire bouger les montagnes. Ça va faire bouger les montagnes. Alors, je vais prier pour terminer. Seigneur, je te remercie parce que tu nous offres ton esprit. En tant que tes enfants, on peut bénéficier de toute la puissance que tu as déployée pour la résurrection de Jésus-Christ. On peut bénéficier de ton esprit qui est un cadeau que tu nous fais. Seigneur, je te demande que dans chacun d'entre nous, ton esprit puisse grandir, transformer notre caractère pour qu'il ressemble de plus en plus au caractère de Jésus-Christ, que nous soyons connus pour notre douceur, notre amabilité, nos relations vraies les uns avec les autres, que nous puissions avoir aussi le souci des uns et des autres, vouloir le bien de ceux qui nous entourent, en particulier dans l'Église, prendre soin des plus jeunes, respecter les plus âgés, tout ça de façon à ce que l'Évangile soit quelque chose de vivant dans nos relations. Et Seigneur, merci parce que tu vas nous aider à le faire. Merci parce que tu nous transformes, tu vas continuer à le faire. Pour que l'Église, elle devienne un témoignage de toi, de ta personne, de ton amour. C'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.